Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
C'était un rendez-vous incontournable des émissions Vivante Église la saison dernière. Ils sont de retour après quelques semaines d'absence. J'ai le plaisir de retrouver Louis-Marie Solaire et Paul Diman, nos deux spécialistes de cinéma, pour cette émission consacrée à deux films. L'un avec une vision chrétienne de l'homme et l'autre présenté lors du groupe de ciné-parole à l'ABC. La prochaine séance, c'est demain à 14h30. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Timothée.
Bonjour Timothée et bonjour à tous.
Merci d'avoir accepté mon invitation.
Avec plaisir.
Deux films que nous allons étudier pendant ces 40 minutes d'émission, Je verrai toujours vos visages de Jan Eri et The Old Oak de Ken Loach. Le premier film, Je verrai toujours vos visages, est sorti en mars 2023. Il confronte Nassim, Issa et Thomas, condamnés pour vol avec violence, et Grégoire, Nawel et Sabine, victimes de homejacking, de braquage ou encore de vol, mais aussi Chloé, victime de viol incestueux de la part de son frère. Messieurs, ce film, il raconte les premiers pas de la justice restaurative en France. En quoi ça consiste concrètement, cette justice restaurative ?
C'est c'est pas un processus, c'est une façon de procéder qui a été mise en place, un dispositif plutôt, voilà le mot qui convient le mieux, en 2014. C'est un dispositif peu connu qui propose à des personnes victimes ainsi qu'aux auteurs d'infractions, tous volontaires, de dialoguer dans des lieux sécurisés, encadrés par des professionnels et des bénévoles. Alors, il faut bien souligner que les victimes et les auteurs d'infractions en présence ne sont pas ceux qui ont commis les infractions, c'est pas ceux qui ont commis et dont les victimes ont subi les assauts. C'est le même genre d'infraction, mais pas les victimes et pas les auteurs. Alors c'est un dispositif qui est déjà mis en place dans les pays du nord de l'Europe et au Royaume-Uni, qui a fait ses preuves et qui balbutie en France. Et Jan Eri, la réalisatrice du film, qui signe aussi le scénario, s'est beaucoup documentée sur ce processus. Et elle a décidé de le mettre, de le porter à l'écran. Il faut signaler aussi qu'il y a quelque chose qui s'est passé, un dispositif un peu similaire et qui a été mis en scène dans un film aussi, qui est sorti en 2021, un film espagnol, Les Repentis d'Issiar Bolain, où de la même façon, les auteurs d'un crime... Alors là, spécifiquement, c'est ce qui concerne le Pays Basque espagnol et vous savez, ces moments où l'ETA commettait des actes terroristes, assassinait des gens. Au début, l'ETA a assassiné que des militaires et puis après, ils s'en sont pris à tout le monde, aussi bien les militaires... militaires et policiers, aussi bien militaires, policiers que...
Hommes politiques aussi.
Hommes politiques, journalistes, oui. Même. Oui. Et donc le film raconte un de ces attentats, l'assassinat d'un homme politique, et après la justice restaurative qui en a suivi. Et là, en fait, c'était le tireur lui-même qui était en présence de la femme de la victime. Là, il y a une différence entre... ce qu'on voit dans le film d'Issiar Bolain, Les Repentis, et ce qu'on voit dans le film de Jan Eri. Mais il était bon de faire le parallèle et de montrer qu'en fait, ce dispositif intéresse les pays d'Europe et qui est très important pour les victimes comme pour les auteurs des infractions qui peuvent arriver à se sortir de ce cycle infernal.
Tout à fait. Et c'est un dispositif qui est mis en place donc par le ministère de la Justice. En se disant la prison ne guérit pas forcément. Et on le voit très très bien dans le film, où on voit que les prisonniers soit sont dans le déni de la gravité de ce qu'ils ont fait, ils n'en bougent pas, sauf au cours des rencontres justement, qui sont médiatisées d'ailleurs par des gens qui sont formés pour ça, c'est très rigoureux, et ils doivent suivre le processus jusqu'au bout. Ils n'ont pas la possibilité de s'absenter des rencontres qui ont lieu toutes les semaines ou tous les...
Non, ou 15
un peu
jours,
plus, oui. Voilà. Mais ils acceptent de rentrer dans le processus. Et on voit que aussi bien les auteurs de faits qui peuvent être plus ou moins graves, mais qui sont toujours très graves pour les victimes, évoluent, mais les victimes aussi, qui peuvent dire, comment, je vais donner un ou deux exemples. Il y a une dame un peu âgée, jouée par Miu Miu, qui est la mère d'ailleurs de la
réalisatrice.
De la réalisatrice. On peut lire en note. Bon, revenons-en, qui elle a été victime d'un vol à l'arraché. Et depuis, eh bien, elle dit, mais ça y est, je m'enferme, je sors plus, j'ai peur de tout, et voilà. Et en face d'elle, il y a un agresseur qui a fait une irruption dans une maison et ligoté la fille qui était là, et le père était interrogé pour donner les cartes, etc. Et au cours des entretiens, l'un et l'autre gagnent en grandeur humaine, je dirais. C'est-à-dire que l'agresseur prend conscience de l'impact que ça peut avoir, son geste. Il disait, mais moi, j'ai rien fait, hein, j'ai pas tué, j'ai pas... voilà. Mais il n'avait aucune idée du délitement, enfin, de la déshumanisation que ça produisait. Et puis, il dit à un moment à la femme, mais vous avez rien à craindre, hein, parce que si vous sortez, moi comme voleur, ma trouille, c'est que quelqu'un me reconnaisse et que je sois... Donc, vous n'avez rien à craindre de ce côté-là. C'est pareil, il y a une caissière de supermarché qui a été braquée, et elle dit, j'ai fait 3 ans de psychanalyse, et j'ai toujours un poids de 50 kilos sur les épaules. Et là, en une heure de rencontre, vous me libérez. Et ça, c'est assez extraordinaire. Ce qui est très fort dans ce film, c'est l'attention non seulement aux paroles qui s'échangent, qui parfois sont violentes, hein, les regards. Et la place des visages. C'est filmé souvent en plan assez serré, voire en gros plan. Et ça dit quelque chose de très profond. Ça rejoint un peu au niveau éthique, voire spirituel, la pensée d'un philosophe comme Lévinas, qui dit « le visage de l'autre m'oblige » au sens éthique du mot. C'est-à-dire, tant que je ne rencontre pas un visage, je n'accède pas à ma part d'humanité. Et on voit bien comment ça a lieu, par exemple, dans des conflits non seulement individuels, mais pensons à ce qui se passe en ce moment, Israël-Palestine, c'est des gens qui ne se sont jamais rencontrés depuis 50 ans. Mmh. Voilà. Et eh bien, on peut traiter l'autre de bête, au sens bestial, de tout ce qu'on veut, mais il n'est pas reconnu comme humain. Et celui qui... Voilà. Donc, il y a un enjeu, là, de vie humaine plus digne.
Alors, le dispositif que met en place Jeanne Herry, eh bien, on est témoin, donc, de ces moments de rencontre. Les participants à la réunion sont en cercle. Il n'y a pas de siège attribué. Ils peuvent s'installer comme ils le souhaitent. Ils font attention à la répartition quand même, hein.
Oui, il y a les agresseurs d'un côté.
Les agresseurs d'un côté et les agressés de l'autre. Mais bon, ils sont en cercle et pas face à face. Et les médiateurs sont dans le cercle. Voilà. Et y a, d'ailleurs, c'est très bien montré dans le film, à un moment, est-il nécessaire d'avoir un temps de parole ou un bâton de parole? Et finalement, il décide de pas avoir recours à ce genre de moyens plutôt que de dispositifs.
Au bout d'un moment et d'une pratique de l'écoute mutuelle ou du respect de la parole de l'autre.
Et donc, ce qui fait que à ce moment-là, le spectateur devient participant. Il est dans ce cercle où il tourne autour comme le fait la réalisatrice, parce que ce qui est très fort et ce qui donne un travail compliqué et remarquable aussi de la part des acteurs, c'est qu'en fait tout se joue assis, tout se joue dans l'échange, Tout se joue dans le monologue, parce qu'il peut y avoir un échange, comme une conversation, mais il peut y avoir aussi un monologue en particulier de la part des agressés, qui déversent tout ce qu'ils ont sur le cœur et tout le poids, hein, ce que signalait Paul, et une façon de s'en libérer, hein, comme le disait la jeune caissière Nawel, interprétée par Léla Bekti. C'est en une heure de temps, elle a pu dire tout ce qui lui pesait sur le corps. Alors, ce qui est aussi intéressant dans ce film, c'est qu'on est témoin de deux facettes de la justice restaurative, à savoir ses réunions, mais aussi le travail avec une seule personne, un individu. Et ça, on le suit aussi. On va suivre le chemin de Chloé. Et on va voir ses rencontres avec une médiatrice spécialiste, dont c'est le métier, parce que pour les rencontres, il y a des spécialistes dont c'est le métier, mais il y a aussi des bénévoles qui sont formés pour ça. Oui. Et on voit d'ailleurs la formation à un moment, en la personne d'un maître formateur qui a la parole sûre de scène, mais ça suffit pour mettre en place justement la position de ces médiateurs. Mais
oui, pour en revenir... C'est intéressant, on voit une séance de formation dès le début du film, et donc ça donne tout de suite le cadre. Et donc ça nous met dans un statut tout à fait éveillé pour comprendre ce qui est en train de se passer.
Même si on est prévenu,
oui.
On est surpris, parce qu'on a l'impression qu'on plonge directement dans le dispositif, avoir des accusés et puis enfin des auteurs de faits répréhensibles et leurs victimes, mais en fait sont les personnes en formation qui jouent à être les écoutants et qui jouent à être ceux qui ont agi. Et c'est assez surprenant parce qu'ils le jouent pas mal, mais pas très bien.
Pas très bien. Non, ils se font reprendre d'ailleurs.
Ils se font reprendre et ils disent t'es pas là pour compatir,
oui.
T'es pas là pour pleurer, parce qu'on voit une larme poindre. T'es là pour les écouter et surtout pour les laisser parler. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, le dispositif concernant une personne unique, et elle, donc, c'est Chloé, incarnée par Adèle Exarchopoulos dans le film, elle a besoin de revoir son frère qui a abusé d'elle, mais qui ne l'a jamais reconnu, même s'il a été condamné. Et pendant tout le film, alors qu'on va voir les différentes réunions, en parallèle, on suit le chemin de cette femme qui n'a pas la garantie de pouvoir rencontrer son frère et donc son agresseur.
Oui, c'est incertain jusqu'au bout.
C'est incertain jusqu'au bout parce qu'en fait, elle est dans cette démarche parce qu'elle vient d'apprendre que son frère est de retour dans la même ville où elle habite. Et sa crainte, c'est de le croiser par hasard. Et ça, elle ne veut pas le croiser par hasard. Et tout ça est remarquablement montré par Jeanne Herry, parce que là aussi, on est avec eux, on est avec les personnages, on est dans son cheminement, mais aussi on sort avec elle. Et c'est les seuls moments, d'ailleurs, où Jeanne Herry a recours aux flashbacks ou aux images. Ce qui n'est pas le cas pour ceux qui témoignent en groupe. Pour elle, oui, on la voit enfant, on voit ses moments fugaces et on comprend ce qui a pu la traumatiser en voyant ces images. C'est le seul moment où le dispositif, ce genre de mise en scène est utilisé par la réalisatrice et ça tombe parfaitement bien pour ce cas spécifique de cette jeune femme.
Et avec beaucoup de pudeur aussi, c'est-à-dire qu'on n'est jamais dans une attitude de voyeurisme ni de complaisance. Mais on saisit bien le traumatisme qui en résulte.
Oui, par exemple, juste l'enfant qu'elle était une dizaine d'années, dans la chambre, entendait les bruits et de pas et se disait que son frère allait arriver. Donc elle tirait une targette pour fermer la porte. Et on revoit juste après la même scène. Et au moment où elle veut tirer la targette a disparu.
Ouais.
Ça suffit. pour tout montrer. On n'a pas besoin, la réalisatrice Jeannerie n'a pas besoin de montrer l'acte. Target, pas de target, on a compris. Elle ne mentait pas.
Est-ce que la critique qu'on pourrait faire à ce film et à ce processus de justice restaurative, ce serait pas de trop humaniser justement les prisonniers?
Alors, dans la démarche pénitentiaire, il y a plusieurs objectifs, dont celui de permettre la réinsertion dans la vie ordinaire. Alors, il y a le côté pénitence, hein, c'est-à-dire vous avez causé du tort, vous devez payer pour ça. Mais il y a aussi la dimension restauratrice, si on peut dire restaurative, qui est fort peu présente dans le milieu carcéral, sauf dans ceux qui suivent des entretiens pour faire un cheminement. Ce qu'on voit bien dans le film, c'est que la prison, contrairement à ce que pensent un certain nombre de personnes qui ne connaissent pas ce milieu-là, ouais, ils sont peinards quand même, voilà, nourris, logés, à l'abri de tout, voilà. Et là, on entend ce que disent les visiteurs de prison, c'est que la prison, c'est pas des vacances. Hein. Et en même temps, ils tournent dans leur solitude, dans leur... Alors, soit des fois en niant un petit peu la gravité de ce qu'ils ont fait, parce qu'on se sauve comme on peut, mais des fois en essayant de se sortir de leur pulsion ou de leur... voilà.
Et à ce titre, justement, c'est que le panel, si on peut utiliser le terme, des prisonniers est assez représentatif dans ce type d'infraction. Il n'y a pas d'assassin, il n'y a pas de gros braqueurs, d'attaque à main armée. Encore qu'il y en a un, justement.
Mais qui ne s'est pas servi de son arme.
Il avait une arme à la main. Et à ce titre, il y en a un, le plus âgé de tous, incarné par Fred Testo, qui lui dit « Viens !» Parce qu'il pense qu'il a quelque chose à faire, mais il sait que c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec parce que toute sa vie, elle a été marquée par ça. Et même quand il sortira de prison, il recommencera... Et il reviendra en prison. Il est...
résigné à ce que ça recommence.
Exactement, oui, c'est ça. C'est...
Oui. Il est dans la répétition et sa vie est foutue.
Sa vie est foutue et il a toujours connu ça. Et il pense, à juste titre ou pas, qu'il ne pourra jamais en sortir. Ce qui n'est pas le cas des autres, puisque l'un d'entre eux, lui, est dans la réinsertion. Et on verra... une des réunions en fin de film où il va participer à cette réunion alors qu'il n'est plus en prison.
Il revient dans la prison pour participer à la réunion.
Exactement. Et il arrive en retard.
Est-ce que cette quasi-réconciliation ou cette bonne entente entre victime et agresseur, ça cache pas un côté un peu utopique ?
Utopique probablement, mais pas seulement. Et puis, de toute façon, les uns comme les autres, agressés comme agresseurs, ne sont pas dupes. Ils savent qu'ils sont là pour essayer de retrouver une vie à peu près normale. Mais ils ont conscience des limites. Alors oui, au fur et à mesure que se passent ces réunions, on parle du dispositif où ils sont tous ensemble, les rapports entre eux vont changer, vont même devenir presque amicaux. Mais là aussi, ils ne sont pas dupes. C'est pas parce que la dame incarnée par Miu Miu reprise la chemise de celui qui pense qu'il ne pourra jamais sortir de là qu'ils deviendront amis, non. Simplement, si elle peut faire ça, c'est qu'elle a fait le chemin. Et si l'autre peut l'accepter, c'est que lui aussi a fait un bout de chemin. Le sien, chacun a fait son chemin. Et ils étaient parallèles. Enfin, il n'y a pas de chemin. Finalement, on trace des chemins parallèles qui, de temps en temps, risquent de se toucher. Voilà. Et c'est ça, c'est quand, une utopie peut-être, mais en tout cas, l'espoir que ces chemins se touchent à un moment suffit à contenter, quoi.
Utopique, non, pour deux raisons. D'une part, parce que ça existe. Donc, c'est des dispositifs qui se mettent en place et les pays et les ministères de la justice, du côté de la gestion des crimes et des délits, disent que c'est intéressant d'aller dans ce sens-là. Et quand même, on sort du œil pour œil, dent pour dent, qui maintient la violence dans des limites acceptables, dans la proportionnalité. Là, c'est une autre voie qui s'ouvre. Et que des pays soient intéressés par ce dispositif-là disent quelque chose d'un espoir d'humanité plus réconcilié. Utopiste non plus, parce que, comme vient de le dire Louis-Marie, c'est pas angélique. C'est-à-dire que ça permet d'espérer que quelque chose advienne de mieux. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de problème. Hein.
Un dernier point que je souhaitais aborder, ce film, il prend vraiment le spectateur aux tripes, parce qu'il y a beaucoup de sentiments qui sont mêlés. La colère, l'espoir, les silences, les déchirements, les prises de conscience, la confiance retrouvée. Justement, comment Jeanne Herry, la réalisatrice, arrive à porter ça à l'écran, tous ces sentiments qui se mêlent?
Je crois que le dispositif lui-même est très perceptible, c'est-à-dire que on est témoin. Alors ça, oui, ça touche, mais en même temps, on est un petit peu dans la démarche des médiateurs, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour pleurer, s'apitoyer ou tout ça. On est là pour écouter ce qui se dit, et ça, c'est très intéressant. Et il y a à la fois la proximité des visages et la force des paroles, soit des agresseurs, soit des victimes. Et des fois, les victimes remettent en place l'agresseur quand il dit « Ouais, enfin bon, c'est pas grave et tout. » Il dit « Mais enfin, c'est n'importe quoi. Tu te rends compte de ce que tu dis ?» Et la façon dont la personne agressée dit « Tu te rends compte de ce que tu viens de dire, là ? Mais j'ai envie de te casser la gueule. » Donc, ça peut aller jusque-là. Donc, on voit bien ce qui se passe entre eux. Mais on est aussi à proximité, mais aussi à distance. Et ça, c'est très intéressant. On n'est pas mêlé dans un espèce de rapport pathologique, mais avec un pathos exagéré.
C'est ce que je disais au début de notre conversation. C'est que la caméra de Jeanne Herry est là. Elle est l'œil du spectateur. Quand je dis elle est là, oui. Une caméra est toujours là, forcément, mais elle a la place de l'observateur, l'observateur qu'on pourrait être privilégié, dans le sens où on pourrait tourner autour d'eux et s'attarder à une mimique, à s'attarder à une jambe qui tremble, s'attarder à un mouvement. Et puis il y a le jeu remarquable des acteurs qui jouent évidemment pour eux, mais aussi pour l'autre. Quand le personnage incarné par Gilles Lellouche, dont on parlait à l'instant, Paul, s'énerve après une remarque, là on est saisi. Là on ne peut être que saisi comme l'agresseur l'est. Il dit « Arrête de raconter des âneries, oui. Mais t'as rien fait. Ils ont attaché ma fille, ils m'ont attaché à moi. Pendant tout le temps où ils sont restés, j'avais qu'une crainte, c'est qu'ils tirent. C'est qui nous tue. Donc, non, c'est pas anodin. Oui, j'avais un pistolet, mais je m'en servais pas. Non, non. Non, c'est pas possible. Donc, dans ce sens-là, le film non plus n'est pas dupe de ce qui peut se passer. Non. C'est un dispositif qui peut aider à la restauration. Mais il peut aider. Il faut que ça puisse changer, il faut que ça puisse bouger. C'est pas angélique. C'est l'espoir de quelque chose se passe, et de quelque chose se passe positif pour les uns comme pour les autres. Parce que, on l'a dit justement, la prison ne propose pas de futur. C'est une punition. On a commis un acte répréhensible, on s'en va en prison parce qu'on a commis cet acte. Après, on va en ressortir, mais comment on en ressort ? Là est la question, et la question que soulève Jeanne Herry dans ce film, et dont elle donne une éventuelle solution.
Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup Louis-Marie Soler et Paul Dima pour votre œil éclairé sur ce film Je verrai toujours vos visages, sorti en mars 2023, un film de Jeanne Herry. Le deuxième film que nous allons étudier dans cette émission Vivante Église, c'est un film de Ken Loach, The Old Oak. L'histoire raconte celle de T.G. Ballantyne, le propriétaire d'un pub situé dans une petite bourgade du nord de l'Angleterre. Il y sert quotidiennement les mêmes habitués, désœuvrés, pour qui l'endroit est devenu le dernier lieu où se retrouver. L'arrivée de réfugiés syriens va créer des tensions dans le village. T.G. va cependant se lier d'amitié avec Yara, une jeune migrante passionnée par la photographie. Ensemble, ils vont tenter de redonner vie à la communauté locale en développant une cantine pour les plus démunis, quelles que soient leurs origines. Paul Dima, Louis-Marie Soler, ce film, The Old Oak, c'est avant tout une rencontre entre deux univers.
Ah oui, deux univers, forcément.
Qui n'ont rien pour créer un contact bienveillant.
Ah non. Parce que, en plus, dans le pub, et comme dans tous les bars du monde, c'est là, dans les conversations, où se cristallise, tout. Bah, en particulier le racisme et la xénophobie. Donc, c'est de ça dont on parle et beaucoup dans le film, mais pas que, parce que c'est toujours, il y a le racisme, la xénophobie associée au fait que ces gens-là qui viennent
sont des victimes aussi.
Peut-être, mais dans les conversations, on dit ils viennent nous bouffer le peu qu'on a à manger. Oui. Donc non seulement on n'a pas grand-chose, mais en plus ils viennent pour nous en prendre un peu, voire tout. Donc nécessairement, ça ne peut que mal se passer. À l'exception, bien sûr, des associations qui s'occupent de les recevoir, eux qui sont convaincus du contraire. Mais dans le film, effectivement, ce qui se passe entre TJ et Yara est exemplaire dans le sens où c'est la photographie qui va les faire se lier d'amitié, l'une alors que son appareil photo est endommagé. On prend des photos aussi avec les téléphones, mais elle, c'est un vrai appareil photo, est endommagé, et lui va lui faire en sorte de lui réparer, et c'est à partir de là que va naître cette amitié, ça plus le fait que lui aussi, en tout cas un de ses amis ou son père se passionnait pour la photographie et lui montre quelques photos qui sont fixés au mur d'une arrière-salle.
Qui ne sert plus depuis 20 ans.
Condamnée.
Parce qu'elle n'est plus aux normes, elle n'est plus assurée. Et Yara rentre dans cette salle parce qu'il y a une relation d'estime réciproque, voire d'amitié, qui commence à naître. Et elle est en arrêt devant toutes les photos qui reprennent les grèves des mineurs au moment du gouvernement Thatcher, et où les gens ont perdu leur travail. Et donc, ils faisaient la grève, mais ils faisaient aussi une cantine communautaire où ils se retrouvaient pour s'entraider, pour pouvoir manger quand même un peu. Et tout ça a disparu. De ce regard-là naît l'idée, et pourquoi on ne referait pas ça. Alors, le problème, c'est que la salle était fermée depuis 20 ans. Il y a un habitant du lieu qui a un bon copain, enfin depuis l'enfance, avec T.G., celui qui tient le bistrot, qui lui disait, qui voulait occuper la salle pour faire une réunion publique, politique, pour dire il y en a marre de ces immigrés qui viennent nous emmerder alors qu'on n'a rien. Et il lui dit non, c'est pas possible parce que c'est pas assuré, c'est pas aux normes. Et puis il se laisse ce tenancier du bistrot, il se laisse embarquer par le dynamisme qui est en place, et alors ce qui est très mal vécu par ceux qui n'ont pas.
Alors, il faut quand même signaler qu'il y a un autre épisode dans le film qui va amener ce changement de point de vue chez T.G., qui probablement, malgré l'amitié qu'il porte à Yara, ne l'aurait pas fait changer par rapport à l'occupation de son arrière-salle. quelque chose qui se passe dans sa vie par rapport à son chien qui lui a sauvé la vie, justement. Parce que TJ, comme les autres, lui, bon, il a vécu de plein fouet ces mouvements de grève et ce qui s'est passé, la fermeture des puits, de toutes les mines de charbon en Angleterre et dans le Royaume-Uni, hein, sous l'ère Thatcher, c'est au milieu des années 80. Et lui, bon, il était, il tenait le pub, pas encore à ce moment-là, il était encore le jeune homme.
Oui, son père.
Son père, qui était mineur, qui est mort dans la mine. Mmh. Lui, pas à cause de la grève, mais mort dans la mine, un accident comme il y en avait souvent dans les mines. Et il a raté sa vie familiale. Il a raté sa vie familiale. Au moment où il se rendait compte qu'il a raté, c'était trop tard. Sa femme demande le divorce. Son fils, qui est un adulte maintenant, ne veut plus le voir, ne veut plus lui adresser la parole. Donc, tout a raté chez lui. Il n'avait plus aucune raison de vivre. Et c'est ce chien qui lui a sauvé la vie. Et quand il arrive quelque chose à ce chien, ça modifie aussi son point de vue, qui va l'amener aussi à changer. Parce qu'il avait opposé le même refus aux migrants et aux associations et à la responsable de l'association qui s'en occupe. Non, ma salle, c'est plus possible. Elle n'est plus aux normes. On ne peut plus rien faire. Et ça l'agace encore plus que la question de ses habitués, ses amis, ses habitués du bar. En fait, ses habitués insupportables dans leurs propos, mais qu'ils font vivre. Parce que s'il n'avait pas ses habitués, ben, il aurait pas de clients dans son pub. Son pub qui est à l'image de la petite ville, en ruine. Quoi. Oui. C'est, bon, quand je dis en ruine, c'est pratiquement ça. Quoi. La peinture s'écaille, tout tombe, l'enseigne. Alors à ce titre, c'est très drôle quand il essaye de remettre en place une des lettres de l'enseigne qu'il espère,
qui bascule
qu'il
à chaque
espère
fois.
Remettre en place et qui chaque fois retombe. On voit les rues, on voit les gens qui vivent dans cette ville. On voit les migrants, on voit ce qui se passe dans ce pub, et on comprend le cheminement de cet homme. On comprend le cheminement de cet homme qui se rend compte que ça se reproduit encore d'une certaine façon, et que c'est pas tolérable. Et ça, c'est pas tolérable, et donc il dit oui, on va faire une cantine. Mais dans sa tête, il y a aussi la cantine qui existait dans les années 80, donc il dit, cette cantine, elle sera ouverte aux migrants, mais à tous les autres aussi. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas les moyens de manger, ils pourront venir au moins deux fois par semaine, voire trois, manger sans qu'on leur demande le moindre sou. Parce que c'est ça l'idée aussi. C'est un lieu de rencontre, certes, mais c'est aussi un endroit où on peut manger sans débourser un sou, parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. C'est pas parce qu'on ne veut pas payer, c'est parce qu'on ne peut pas payer. C'est comme ces trois mômes qui, à un moment, sont dans la rue de pré-ados, là, tout jeunes ados, et qui sont témoins de la femme qui est responsable de cette association qui vient amener aux migrants un peu de nourriture, un peu des vêtements, et puis qui sort du camion qu'elle a un vélo pour la gamine qui est là. Et les trois gamins sont témoins de ça. La gamine, l'enfant syrienne, part sur le vélo. Elle est heureuse, elle part sur le vélo. Et les trois mômes regardent cette gamine partir. Puis il y en a un qui dit à l'autre, mais moi aussi j'aimerais avoir un vélo. Et oui, moi aussi j'aimerais avoir un vélo. Alors on comprend que c'est compliqué, comment arriver à s'entendre alors qu'on est tous blessés, meurtris par une vie difficile. Les raisons ne sont pas les mêmes. Mais à l'arrivée, le résultat est identique.
Ce qui est intéressant aussi dans ce film, qui ne se termine pas en happy end, c'est-à-dire que tout n'est pas réglé, tout reste fragile, mais quand même, le film montre ou met en valeur le fait que le pire n'est pas certain. C'est-à-dire qu'il se passe un événement, on ne va pas déflorer le film, il faut le voir pour comprendre. Parce que là aussi, il y a toute une façon de filmer qui est très très forte, et il faut voir comment c'est fait. Il y a un drame qui se produit, Et là, il y a une solidarité dans le deuil qui a lieu entre les migrants, mais il y a aussi des gens de la ville, des habitants du lieu qui voient ça. Et nous voyons ça. Et à la fin, il y a une procession avec des bannières. Il y a une mixité qui se fait un petit peu. Les bannières des mineurs, en mémoire des mineurs qui ont été... qui sont décédés, il y a un très beau moment aussi où Tidji et Yara se retrouvent dans le cœur de la cathédrale. Elle est syrienne. Et il y a un très très beau dialogue. Elle dit, mais tant de beauté, tant d'art, tant de travail des hommes qui a été fait pour ce lieu de paix et de gratuité. Et ils relisent chacun ce qu'ils ont vécu, et c'est un moment de grâce pour eux. Et voilà, mais ça reste très pudique. Voilà. Autre chose est possible. Autre chose est possible.
Alors, on pourra reprocher un certain angélisme à Ken Loach, mais on le retrouve fidèle à ses valeurs. Toujours présente. Alors oui, certains rebondissements qu'on voit dans le film peuvent paraître trop beaux, ou naïfs peut-être, par la noirceur, enfin, par rapport à la noirceur de notre époque, mais ces personnages respirent l'authenticité, quoi. Ils sont là. Et Dave Turner, qui incarne Tidji Ballantyne, est parfait. Est parfait, comme la jeune actrice Ebla Marie, qui interprète Yara. Ils sont formidables. Oui. Et donc, ça transpire l'humanisme et ça transpire les valeurs de Ken Loach, 87 ans, le jeune homme. Et il y a de la peur, la fatigue, mais il ne renonce jamais. Il renonce jamais. Alors, comme ses personnages, forcément. Alors, on a vu quelques facilités par rapport à The Old Oak, le vieux chêne. Alors, on dit, les tenants du film disent le vieux chêne toujours vert. Bon, on passera pour l'avoir lu dans les journaux. Ou alors, le vénérable réalisateur maintenant. Perd la vue, bah oui, 87 ans. Oui, mais sa vision du monde a toujours la même acuité. Ça permet des jeux de mots faciles, ou à l'inverse, pour le prendre à son propre jeu. Toujours est-il que une chose qu'on ne pourra jamais reprocher à Ken Loach, c'est sa sincérité, et il est sûr et convaincu de ce qu'il raconte chaque fois, quel que soit l'âge qu'il ait eu.
Le mot de la fin, Paul Dima.
J'ai lu dans une interview de Ken Loach, où le journaliste lui dit, mais c'est quand même pas un petit peu... votre cinéma est moins militant, vous êtes plus attendri à cause de l'âge. Il dit, oh oui, alors là, c'est une vision complètement bourgeoise de la chose, je le cite, typiquement bourgeoise, qui ne veut pas voir la longue solidarité de la tradition ouvrière. Et ces personnes-là considèrent les ouvriers que comme des victimes qu'il faut aider en étant charitable. Et il dit, mais c'est pas ça la chose. Parce que ces mêmes personnes rouspètent quand les ouvriers font la grève. Et on voit bien son combat.
Et on retiendra ça de ce film, en tout cas The Old Oak, le film de Ken Loach. Merci beaucoup à tous les deux, messieurs.
Merci à vous, Timothée, avec plaisir.
Et on vous retrouve bien évidemment le mois prochain pour une nouvelle émission cinéma Vivante Église. Paul,
ce film passera à l'ABC le mardi 7.
Donc demain.
Demain.
À 14h30.
À 14h30. Et vous êtes tous cordialement invités pour une séance de ciné-parole, ou comme le titre l'indique, après le film, on dit ce qui nous a touchés.
C'est bien noté en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.